Bonsoir, comment allez-vous? Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait des trucs qui empêchent le printemps de pousser en rond? Des menaces de redoublement, des déclarations de revenus, des obligations de maigrir? Je propose de rétablir la peine de mort avec torture, pour ceux qui disent que le redoublement c'est rien, que la déclaration en ligne c'est facile et que maigrir est une question de volonté. Maigrir, c'est une question d'amour. C'est bien pour ça qu'on veut maigrir, pour être plus aimable. Si on veut être plus aimable, c'est qu'on pense ne pas l'être suffisamment. Et comment compenser qu'on pense qu'on n'est pas assez aimable? En s'enfilant, oui, tout seul, une petite douceur, ou deux, ou trente. Seulement la douceur est douce quand elle passe, mais une fois passée, elle apporte son lot de dureté. Trop gros, pas assez de volonté, pas comme il faut, encore moins aimable qu'avant. Trop dur à supporter, vite, de la douceur. Et si chaque fois qu'on a envie de manger, on se faisait un compliment, oui, un vrai. Pour ça, il faut toujours en avoir en stock. Plein ses poches, ses placards, son cartable, écrit sur des bouts de papier. Et on les lit, un, deux ou trente. Parce qu'un vrai compliment, ça nourrit.
Bonjour, je m'appelle Cléo, j'ai 8 ans et demi et j'aimerais savoir si on s'est toujours moqué des gros dans l'histoire.
Merci Cléo. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Garelli?
Cléo pose un problème qui est très très important parce qu'il porte sur la manière dont on entre en relation avec les autres. Et alors c'est vrai qu'au premier abord, les gros ont toujours été l'objet de l'ostracisme. Ils ont toujours été rejetés. On le voit bien dans ce texte absolument sublime de Shakespeare où il traite Falstaff de tous les noms. Crosse-bedaine, gros jambon, vous voyez, avec un mépris qui est tout à fait évident. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas ne pas faire de nuances. Parce qu'il y a gros et gros. Vous voyez. Alors, dans les époques anciennes, par exemple, on commence à être gros quand on ne peut plus monter à cheval. Et à ce moment-là, effectivement, on est l'objet d'un rejet et d'une sorte de distance. Mais en même temps, par exemple, Monseigneur, qui est le fils de Louis XIV, Monseigneur est décrit par Saint-Simon comme étant relativement gros, mais pas tellement. Et donc, lorsqu'il est sur le cheval, il donne, avec sa densité physique, un sentiment de domination, un sentiment de force,
et puis,
un sentiment
gros, de grandeur.
Alors, bon, il y a évidemment les gros qui sont les riches et qui représentent du coup quelque chose qui est d'ordre de l'accumulation, évidemment. Mais voyez, si on entre dans les nuances, on a un seuil de grosseur qui peut être pris comme étant de la force, de la hauteur et finalement une forme de domination. Alors aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Parce que la nuance aujourd'hui, elle commence à être moins tolérée qu'elle ne l'était auparavant. Donc ceux qui sont en surpoids sont des gens qui commencent à être un petit peu discutés, un petit peu contestés. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est absolument raffiné, qui est devenu beaucoup plus subtil qu'il ne l'était auparavant. Avec une remise en cause portant sur le fait qu'il pèse non seulement de poids, mais sur l'argent, il va coûter plus cher à la communauté, etc. Donc je trouve personnellement que, au fond, la manière de regarder les gros, c'est rendu beaucoup plus subtil et beaucoup plus différencié. Et au fond, ce qui était toléré auparavant, l'est moins aujourd'hui. Même si le très gros n'a jamais été véritablement toléré.
Georges Vigarello n'est pas gros. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est spécialiste de l'histoire, de l'hygiène, de la santé et des représentations du corps. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des questions sont posées par des enfants et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Par exemple, tout à l'heure, nous saurons comment on fait pour construire un pont dans l'eau. Et tout de suite, une question de saison.
Oui, bonjour, je m'appelle Leilou, j'ai 8 ans et je voudrais savoir par où sort la toile d'araignée? Merci de me répondre. Au revoir.
Christine Rollard, vous avez écrit Arachna avec Vincent Tardieu, édité chez Belin, Les voyages d'une femme araignée. Et Lélou vous demande par où sort la toile d'araignée?
Eh oui, bonjour Lélou. Bah écoute, en fait, ta question, il faudrait plutôt la poser en « par où sort le fil d'araignée ?» Parce qu'en fait, toutes les araignées ne font pas de toile. On a l'habitude de voir des toiles, c'est un piège, hein. La toile c'est pour capturer des proies. Mais c'est plutôt les fils de soie que produisent les araignées. Hein. Donc c'est plus exact par rapport à ta question, les nous. Et cette soie, effectivement, elle sort par des tubes que l'araignée possède en fait à l'extrémité de l'abdomen, c'est-à-dire la partie postérieure de l'araignée, du corps de l'araignée. Et ces tubes, qui sont souvent au nombre de 6, possèdent à leur extrémité aussi des microtubes, ce qu'on appelle des fusules. Et par ces petites fusules va sortir un petit fil d'araignée. Donc quand on parle de fil d'araignée, c'est ou qu'on voit des fils dans la nature, c'est plusieurs tout petits fils microscopiques qui se sont agglutinés les uns aux autres et qui forment ces fils qu'on peut voir, en fait, quand on se déplace le matin, par exemple, avec la rosée, on les voit très bien, ou ceux qu'on se prend dans la figure, hein, quand on se déplace, d'accord, mais qu'on ne voit pas forcément très, très facilement. Donc voilà par où sort le fil. C'est par les tubes qu'il y a à l'extrémité de l'abdomen. Et non pas par les mains, comme le fait Spider-Man, par exemple. Hein, effectivement.
Donc, ça sort à l'arrière. Donc, c'est six fils, en fait.
C'est six tubes qui procèdent des microtubes, donc des dizaines de microtubes, et les fils de soie sortent par ces dizaines de microtubes.
Et alors, elle fabrique cette soie avec quoi? Avec ce qu'elle mange? Avec,
parce non, pas du tout. Oui, effectivement, il faut la produire. Et dans l'abdomen de l'araignée, alors les araignées, en fait, c'est des usines à soie. Elles ont des glandes, hein, donc il y a quelque chose qui permet en fait de conserver du liquide à l'intérieur, parce que la soie au départ elle est liquide dans le corps de l'araignée. Donc il y a plusieurs types de glandes, hein, selon les espèces d'araignées qui vont construire des pièges ou pas. Il y a de 3 à 8 types de glandes différentes qui vont produire des soies différentes, qui vont servir à l'araignée pour soit se déplacer, soit construire la toile, soit entourer les œufs de soie quand les femelles vont pondre. Donc il y a des usages différents en fait et des soies différentes. Et donc c'est ces glandes, hein, donc qui vont produire cette soie qui est liquide à l'intérieur, qui va se solidifier à l'air.
On dit l'araignée, mais il y a un mâle et une femelle dans l'araignée.
Ah oui, il y a les deux sexes, effectivement. Le mâle est souvent un peu plus petit que la femelle, ou un peu plus effilé, quelquefois de même taille, mais avec un abdomen plus effilé, moins rebondi, moins arrondi. Et il y a bien les deux sexes. Alors.
Et le mâle fait des pièges aussi, ou c'est comme chez nous, il n'y a que les nanas qui font les courses?
Eh ben, ça dépend des espèces. Donc, selon les espèces, les mâles font également leurs pièges, puisque de toute façon, quand ils vont se nourrir, pour se développer, il faut bien qu'ils mangent. Donc, ils vont aussi construire des pièges pour pouvoir se nourrir. Ou pour les espèces qui ne font pas de pièges, ben, ils vont exactement de la même façon, capturer en sautant, capturer en faisant de la chasse à l'affût, etc. D'autres vivent un peu en parasite des femelles, mais ça dépend des espèces.
Ça y va en ce moment, hein, les toiles d'araignée. Oh, regardez dehors, ça construit à tout va. Christine Rollard est donc biologiste et elle travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Good day, sunshine. Sunshine, good day, sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. 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 Une jolie journée ensoleillée, pourvu que ce titre des Beatles se soit prémonitoire.
Les petits bateaux sur France Inter.
Attendez, puisque nous parlions de soleil, restons dans le ciel.
Allô, je m'appelle Emilien. J'ai 10 ans et je voudrais savoir à quelle distance commence le ciel. Merci.
François Forger, le ciel, c'est votre métier. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous vous occupez en particulier des planètes. À quelle distance commence le ciel? Je ne sais pas comment vous allez interpréter cette question.
Oui, c'est une belle question. Bon, alors moi, je ne suis pas poète ou philosophe, parce que c'est un peu une question de philosophie, où se trouve le ciel. Mais bon, comme je suis un spécialiste des planètes et même des atmosphères, je vais répondre un peu physiquement. Alors, le ciel, quand on est sur Terre, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, on voit des nuages dans le ciel. Alors, en fait, les nuages, ils sont pas loin. On le sait bien, quand on va en montagne ou même en avion, on passe au-dessus. Ils sont à quelques kilomètres d'altitude, typiquement. Et puis, quand il n'y a pas de nuages, qu'est-ce qu'on voit? On voit du bleu. Alors, ce bleu, c'est en fait l'atmosphère, c'est du gaz. Alors, quand on se regarde, là, je vous regarde à travers la pièce, on voit pas l'atmosphère, c'est tout à fait transparent. Mais sur une épaisseur très épaisse de plusieurs kilomètres, eh bien, en fait, le gaz, on commence à le voir parce que la lumière du soleil est diffusée, surtout le bleu, c'est pour ça que le ciel est bleu, et c'est cette air nous apparaît comme bleuté. Et alors, jusqu'où ça va comme ça? Bien, en fait, si on monte dans le ciel, on monte en altitude, les premiers qui ont fait ça, ils ont fait ça en ballon, et quand ils sont arrivés vers une trentaine de kilomètres d'altitude, 30 000 mètres, donc c'est bien au-dessus de là où vont les avions, eh bien on se rend compte que peu à peu, le ciel devient de plus en plus violet, noir, et à partir de 30 000 mètres, il est presque noir. Et puis si on continue au-dessus, est-ce que le ciel est encore là? Bon, alors c'est l'espace, mais malgré tout, en fait, l'atmosphère s'arrête pas d'un coup. Alors je sais pas si on peut dire le ciel c'est l'atmosphère, mais si, même si on monte à 100 km ou même à 400 km, il y a encore un petit peu, c'est très progressif, il y a encore un petit peu de gaz, un peu d'atmosphère.
Par exemple, on peut plus respirer.
Ah, on peut plus respirer très rapidement d'ailleurs. Déjà vous savez, quand on va sur le mont Everest, beaucoup d'alpinistes mettent un masque à oxygène, tellement il y a peu d'air. Quand on est encore au-dessus, bien sûr, là ça devient plus possible. Au-delà de 20 km, il faut mettre un scaphandre. Bref, je vais pas entrer dans les détails. Mais par contre, il n'y a pas de limite. C'est pas comme un océan où hop, on sortirait à la surface. Ça continue doucement, il y en a de moins en moins. Et même, par exemple, là où il y a des astronautes, la Station Spatiale Internationale, elle est à 400 km d'altitude. Et bien, malgré tout, alors elle est dans l'espace, elle va très très vite, mais il y a encore un petit peu d'air qui la freine. Et si on l'accélère pas de temps en temps, eh ben, peu à peu, elle va, à cause du frottement de l'air, très peu des quelques molécules d'air qui sont là, elle va le sentir, ralentir et finir par retomber sur Terre. C'est par exemple ce qui est arrivé à une autre station spatiale dans les années 70, qui s'appelait Skylab. Elle est restée quelques années. Au bout d'un moment, à force de frotter dans l'air, entre guillemets, elle est retombée sur Terre.
D'accord. Donc voilà le ciel. On pourrait dire que la toute fin du ciel, progressivement, ça pourrait faire 400 kilomètres, quoi.
Ça pourrait faire même l'infini. C'est ça qui
oui,
est difficile.
Vrai,
parce que même la Lune ressent un petit peu la présence de l'atmosphère de la Terre. Mais bon, puisque la question était un peu poétique, où est le ciel? Moi, je dirais que quand on monte comme ça dans l'espace, vers une trentaine de kilomètres, tout d'un coup, le ciel devient noir et on est dans l'espace. Voilà.
Allez, redescendons sur Terre. François Forger est directeur de recherche au CNRS. Il est donc planétologue. Vous pouvez réécouter cette question ainsi que les précédentes sur le site de France Inter. Qui a dit il y a des allumettes au fond de tes yeux, des pieds d'oie à queue dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour? Ah, ma façon de vous le dire donnait un indice. Si vous avez répondu Jacques Higelin, eh bien, vous avez le droit de lire le très bon livre de Thomas Vineau, Des étoiles et des chiens. Il s'agit de 76 courts portraits d'artistes plus jolis les uns que les autres. Tenez, à propos de chiens, voici une question que nous proposons à Michel Pastoureau, historien, spécialiste des couleurs, mais aussi des animaux. Il a entre autres écrit Le bestiaire du Moyen-Âge.
Bonjour, je m'appelle Ève, j'ai 23 ans et j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on voit autant d'animaux dans les enluminures des livres du Moyen-Âge.
Bonsoir Ève, Michel Pastoureau, qui est historien, vient d'écrire Bestiaire du Moyen-Âge et c'est édité au Seuil. Alors là, il n'y a que des animaux. Alors pourquoi tant que ça au Moyen-Âge, demande Ève.
Il y a autant d'animaux dans les livres du Moyen-Âge parce que l'homme et l'animal sont beaucoup plus proches qu'aujourd'hui. Quand on est historien du Moyen-Âge, comme moi, et qu'on travaille sur toutes sortes de documents, on rencontre l'animal partout. Probablement parce que l'animal était très présent dans la vie quotidienne et puis dans les mentalités, dans les sensibilités. Donc on en parlait souvent, on le représentait souvent. J'ai même trouvé des documents qui nous racontent comment on juge des animaux, on les conduit au tribunal parce qu'ils ont commis des crimes ou des délits.
Quoi, par exemple, un coup de pied donné par un cheval, une morsure par un chien.
Un bœuf qui refuse de travailler, c'est-à-dire de tirer la charrue, mais surtout des cochons qui ont blessé ou dévoré des nourrissons, des enfants. On a l'idée au Moyen-Âge que ces animaux, des gros animaux, sont des êtres moraux, qu'ils comprennent ce qu'est le bien et le mal, donc on peut les juger. Et on les conduit au tribunal, on leur donne un avocat qui les défend, il y a procès, et parfois l'animal peut être acquitté. On se pose beaucoup de questions au Moyen-Âge à propos des animaux. Par exemple, est-ce qu'ils ressuscitent aussi après la mort? Est-ce qu'ils vont au paradis, en enfer? Est-ce que c'est le même paradis et le même enfer que pour les êtres humains? Ou bien plus concrètement, est-ce qu'on peut les faire travailler le dimanche? Est-ce qu'on peut leur imposer des jours de jeûne, comme pour les hommes et les femmes? Bref, il y a une espèce de projection anthropomorphe, humaine, sur le monde animal, qui nous fait un peu rire parfois, mais qui au fond souligne ce cousinage beaucoup plus grand entre l'homme et l'animal que dans nos sociétés contemporaines.
Drôlement intéressant surtout que nous nous préoccupons à nouveau des animaux en ce moment. Les livres de Michel Pastoureau sont sur notre site. On faisait des procès aux animaux. Si un jour on fait un procès aux objets, notre répondeur sera mâle. Je n'ose à peine vous donner le numéro de ce répondeur tant il nous lâche en ce moment et j'ai honte de vous dire d'appeler s'il ne répond pas. Alors, n'appelez pas le 01 56 40 43 57.
Il était une fois dans l'Ouest encore sauvage, un peintre armé de lettres, un vrai tueur à gages. Avec la jeune Houston, il vanne et se pavane. Il flambait des dollars, 30 ans avant Swagman. Jadis, il mélangeait à l'arrière des saloons des mélodies châtiées au rythme boum, boum, boum. Et dans les plaines immenses de vieux tubes en faïence, la magie de Gainsbourg a peuplé le silence.
Super Gainsbourg.
Chassé de la cité, le jeune scribe chétif a tatoué sur le cœur l'étoile d'un shérif. Il masque ses démons en annonçant des psaumes qu'il note sur sa paume dans une rôle ce fantôme. Flic, flank, spliff, stupé, sing, sing. Bébé et petite pépé, pin-up comme bling, bling. On peut frotter des lampes et écumer 15 bars. Ça ne fera pas apparaître le génie d'un Gainsbourg.
Super Gainsbourg. The man with the cabbage head. Super Gainsbourg. He knows the tricks of the trade. Super Gainsbourg.
C'est l'homme à la tête de chou.
Super Gainsbourg.
L'homme à la tête de chou, chou, chou.
Super Gainsbourg.
De chou, chou, badou, balouba, orang-outan, bubblegum, baby boom.
Les moins de 20 ans, oui, connaissent aussi cette chanson-là. C'était MC Solar, Super Gainsbourg. Vous écoutez France Inter, c'est une bonne idée. Avez-vous lu que le plus long pont marin du monde vient d'être inauguré avec ses
54 kilomètres de long. Il relie les villes chinoises de Hong Kong, Macao et Zhuhai. Nous avons reçu il y a quelque temps Michel Virogeux, ingénieur, consultant, concepteur de grands ponts dans le monde entier.
Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 6 ans et demi. Je voudrais savoir comment on fabrique les ponts comme il y a de l'eau en dessous. Merci.
Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai presque 6 ans. Je voudrais savoir comment on construit les ponts dans la mer. Merci.
Bonsoir Maria et Raphaël, vous avez deux méthodes différentes hein, pour vous exprimer, mais les deux sont bonnes puisque nous avons parfaitement compris comment on construit un pont dans la mer, un pont quand il y a de l'eau, Michel Virogeux.
Ah, alors que ce soit une rivière ou la mer, c'est pareil, le problème c'est l'eau. Comment on peut aller mettre les pieds dans l'eau? Alors il y a plusieurs façons, et je vais commencer par la méthode la plus claire d'une certaine façon. Alors bien sûr, pour pouvoir construire en mer, il faut des moyens nautiques. On a des barges, on a des bateaux. Alors ça, c'est évident. Alors, ce qu'il faut, c'est pouvoir construire les fondations et la pile. Une fois qu'on a construit la pile, évidemment, construire le tablier, c'est-à-dire là où passent les voitures, ce qui porte les charges, c'est pas un problème. On a les techniques pour ça. Alors, pour pouvoir construire les fondations, il faut aller descendre au fond de l'eau. Et pour ça, on va faire une enceinte fermée. Alors, le plus simple, c'est de faire des enceintes circulaires parce que ce qui est circulaire va bien résister à la pression de l'eau. Et comme ça, on va construire ce qu'on appelle un batardeau. C'est-à-dire qu'on va venir battre ce qu'on appelle des pales blanches. Alors, les pales blanches, c'est des espèces de grandes feuilles plates en acier, un petit peu ondulées pour qu'elles aient de la résistance, qui sont équipées d'espèces de serrures sur les deux côtés. On utilise pour les battre ce qu'on appelle un mouton diesel. Hein, c'est une espèce une grande masse qui se déplace le long d'un rail vertical. Alors, cette masse, elle est très lourde. Elle descend, elle tape sur la pale planche. Et puis là, elle rebondit et ça fait exploser le gasoil dans le piston du mouton diesel. Et le piston, du coup, avec l'explosion, il remonte et puis redescend, et puis remonte, et puis redescend. Et donc, il va nous battre la pale planche jusqu'à ce qu'on coupe le courant. Et puis après, on prend une deuxième pale planche, on l'enfile dans la serrure sur le côté de la première, et tac, on recommence. Et puis on recommence, et puis on recommence. Ceci dit, à l'intérieur de ce batardeau de pale planche, on va raidir le système par des profilés qu'on va mettre à l'intérieur et qu'on va souder sur les pales planches.
On soude dans l'eau?
On peut souder dans l'eau, oui. On va d'abord le commencer en haut, puis on va souder dans. On peut souder sous l'eau, hein, y a pas de problème. Alors évidemment, c'est spécialisé, mais enfin, il faut souder dans l'eau. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on a une enceinte qui est à peu près étanche. Alors, en général, on va à ce moment-là bétonner au fond. On va mettre ce qu'on appelle un bouchon de béton qu'on va couler sous l'eau. Et puis à ce moment-là, vous avez votre batardeau, vous avez votre bouchon. Et ben, on va enlever l'eau et puis on va descendre travailler. Donc ça, c'est la première technique. Alors, il y a une deuxième technique qui consiste à fabriquer un caisson à terre. On fabrique le caisson dans ce qu'on appelle une forme de radou. Les Anglais appellent ça des dry docks, c'est-à-dire une espèce de chantier sous l'eau. On ferme les portes, on vide la forme de radou. À l'intérieur, on va construire une espèce de caisson avec un fond. Et puis quand on aura construit notre caisson, on ouvre les portes, l'eau rentre et le caisson se met à flotter. Et là, on va prendre des remorqueurs et on va aller le mettre en place. C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour les pylônes du pont Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux. Les caissons de fondation des pylônes de levage du tablier, puisque c'est un pont levant, ont été fabriqués dans la forme de radou de bassin.
Voilà qui est bien impressionnant, autant quand on est dessus que quand on écoute l'explication. Explication à réentendre sur franceinter.fr. On trouve tout sur le site des petits bateaux. C'est pour ça que je vous invite à le visiter. Nous reviendrons dimanche prochain à 19h30. Nous, c'est Sacha Tropp, Marjorie Duvoucou, Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert et Noël Bréham. Pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.